Je voulais vous demander, est-ce que vous suggérez qu'en prêtant attention à ces sons-là au détriment des sons urbains, on doit regarder davantage? Et est-ce que ce n'est pas une expérience, une situation qui est proche des personnes sourdes? Et puis, par ailleurs, je trouve que vous n'avez pas creusé suffisamment la question qui me semble être au centre de votre propos. Il s'agit d'être ensemble sans être avec. Hein. C'est-à-dire, c'est la question de l'individualisme extrême et du narcissisme, hein, puisqu'il y a là le plaisir d'être seul. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux points?
Concernant la première question, oui, c'est proche des expériences, sans doute proche des expériences des sourds, même si je n'ai pas travaillé directement sur ce type de population. Cela dit, il y a toujours cette différence essentiel qui est le fait que ici la déficience auditive est partielle parce qu'on peut n'écouter que d'une oreillette, on peut écouter un volume sonore très faible et elle est toujours réversible puisqu'on peut arrêter la musique et donc il y a cette possibilité là et c'est ce qui fait toute la différence et ce qui permet de continuer à être dans les situations urbaines quoi. Concernant la seconde question, être ensemble sans être avec, et question, est-ce que ça va traduire une forme de narcissisme? Disons que, voilà, moi je pense que, enfin, j'ai toujours été assez déçu par l'argument de la bulle intimiste hein, qui dirait voilà ces gens-là ce qu'ils font quand ils se mettent à écouter de la musique c'est se mettre vraiment en retrait. Je pense que quand on essaye d'entrer vraiment dans la description réelle de ce qu'ils font et de leur manière de s'inscrire dans l'espace public, on arrive à des conclusions différentes. Et c'est ce que permet l'ethnographie hein, le suivi vraiment des trajets suivis intégralement et pas seulement de petites portions de trajet. Effectivement, ils peuvent se retrancher pendant quelques minutes, mais être rappelés à la réalité des mobilités, des micro-mobilités urbaines au bout de la sixième minute, quoi. Hein. Voilà. Alors maintenant. On voit notamment, alors c'est plus marqué chez les jeunes, parce que là il y a des réels, sans doute des compétences. Alors là j'ai pas creusé cette question là. C'est la faculté qu'ont certains auditeurs baladeurs à suivre des conversations et à figurer dans des groupes tout en continuant à écouter leur musique. Alors là systématiquement, enfin j'ai jamais vu quelqu'un le faire avec deux oreillettes. Systématiquement, il n'y a qu'une seule oreillette présente et de préférence, c'est l'oreillette qui est à l'opposé donc de la personne avec qui on est en conversation. Donc là, il y a des compétences qui semblent se déployer parce que c'est quand même quelque chose, je pense, assez difficile de pouvoir parler, écouter en même temps ou écouter la musique et la conversation et puis parler en même temps. Enfin bref. Donc voilà, c'est une question que j'ai pas creusée.
Sur ce point, je peux juste ajouter. J'ai beaucoup travaillé donc sur le téléphone portable, pas tellement sur l'écoute de la musique, mais ça en faisait partie. Et je partage bien cette idée de bulle intimiste. En fait, quand on part de là, on ne voit rien de ce qui se passe. Par contre, c'est sûr que quand on regarde vraiment ce que les gens font, notamment les jeunes, ils peuvent être capables de déployer des compétences de saturation d'expérience, enfin de saturation perceptive, et même effectivement parler. S'échanger des images en même temps sur le téléphone mobile qui devient un objet partagé, se faire écouter la musique parce que ça se fait aussi beaucoup. Il y a l'oreillette qui pend à moitié, mais il y a aussi l'oreillette qu'on se donne. Donc on n'entend plus. Du coup, les corps se rapprochent. Donc il y a ce jeu des corps qui est aussi médiatisé par le fait qu'on écoute et qu'on n'entend rien de ce qu'on raconte. Et quand on interrompt, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller interrompre des groupes de jeunes comme ça parce que leur utilisation intense et saturée et redondante, etc. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils échangent en fait dans cet espace? Et précisément de l'être ensemble. Et il y a de l'être ensemble sans contenu. Mais on n'y comprend rien. Bien sûr qu'on n'entend rien. En plus, il y a le métro qui passe. Mais c'est pour rigoler. Et puis, on est en...
Je crois qu'on est plusieurs à poser la même question.
Oui, sur le nouveau, parce qu'il y a beaucoup, c'est intéressant quand même que la une nouvelle pratique, c'est de mettre son portable pour que tout le monde l'entende. Donc du coup, là, c'est vrai que le truc de la bulle intimiste, là, c'est plutôt justement de faire partager, de se faire voir, quoi, finalement.
Il n'y a pas un paradoxe justement avec la bulle intimiste, parce que précisément porter un casque sur les oreilles, ça supprime l'égo-perception, c'est-à-dire les propres sons du corps quand il marche au sol ou ce qu'il produit par son déplacement. Quoi. C'est-à-dire on coupe, c'est un effet de coupure plutôt du corps comme producteur de son par rapport à soi-même, mais par contre qui est toujours livré à autrui. Quoi. Je pense au son des pas sur le sol, enfin des choses très simples, manipulation d'objets, etc. Quoi.
C'est plus une piste de réflexion qu'il me semble qui traverse un petit peu le propos de cet après-midi, mais aussi peut-être de ce matin d'une certaine manière. Vous l'avez tous dit, je crois, d'une manière ou d'une autre, c'est sur la question du focal ou du défocal. L'idée consiste à dire que par le Walkman, par l'auditeur baladeur, on peut travailler sur la saisie périphérique ou que... quand Anne parlait du multifocal pour l'approche du dépaysement ou quand on parle de la capacité à sentir ce qu'on a autour de soi pour les enfants des rues, il me semble qu'il y a une question qui est un peu transversale, qui court un peu dans toutes les interventions, qui à mon avis nous rapproche précisément de la thématique des ambiances, qui est comment est-ce qu'on peut saisir la dimension sensible de la ville quand on essaye de travailler sur l'articulation ou les modes de déplacement entre du focalisé, une perception focalisée, une perception défocalisée, périphérique, flottante, etc. C'est-à-dire que là, il me semble qu'on tient quelque chose qui est de l'ordre précisément d'une façon de capter des ambiances, qui est ne pas s'en tenir à une saisie d'objets, mais avoir un mode de relation perceptif au monde qui est en fait de l'ordre de l'enveloppe dont on parlait ce matin à Tokyo, quoi, d'une situation enveloppante. Il me semble que là, il y a peut-être une piste de réflexion qui serait intéressante de creuser, parce que c'est vrai que la plupart des travaux, il me semble, dans le champ de la sociologie ou de l'anthropologie ou des sciences cognitives, tournent beaucoup autour d'une saisie d'objets et au détriment peut-être d'une absence de saisie ou d'une déprise justement beaucoup plus de l'ordre du milieu ou de l'ordre de l'enveloppe, quoi. Voilà, c'est juste une remarque, mais qui me paraissait courir un petit peu d'une manière ou d'une autre sur différents plans, que ce soit épistémologique ou empirique, mais qui à mon avis est très très intéressant pour travailler sur cette notion d'ambiance, quoi. C'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on peut travailler sur du non focal. Qu'est-ce qu'on fait du défocalisé et qu'est-ce qu'on fait du passage entre l'un et l'autre, entre le flottant et le focalisé?
Oui, j'avais peut-être aussi deux questions un peu transversales par rapport à nos débats. C'est, la première, c'est si on revient à cette question du dépaysement, j'ai l'impression qu'on tient deux types d'approches ou deux types de discours, où il y en a un qui était assez celui, ce matin puis le début de l'après-midi, où on a parlé de l'importance de l'événement, de ce qui rompt, de la rupture par rapport à d'autres situations, donc le dépaysement comme situation exceptionnelle, étrangeté, etc. Et ce qu'on a vu davantage émerger là, dans ces derniers propos, c'est l'ordinaire. Alors, il est apparu un peu sous-jacent, avec un mélange d'ailleurs avec le familier, alors qu'on sait très bien que, avec de Certeau, qui n'a pas encore été cité, j'étais un tout petit peu étonnée que, voilà, il n'est pas encore apparu. Est-ce que, au fond, le dépaysement n'appartient pas aussi à l'ordinaire, hein, et l'ordinaire étant comme révélateur de ce dépaysement vécu, tout le temps, par différents modes, par différents mots, par différents regards. Je pense qu'à travers l'exposé d'Anne en particulier, c'était assez évident. Alors que si on attend l'événement, à ce moment-là, on est tout à fait dans un autre type de, d'approche. La deuxième question, elle porte sur notre réflexion sur l'espace, enfin le dépaysement et l'espace public. Et donc je me demande, si on tire complètement les logiques de ce qui a été dit, si il est véritablement possible de penser un espace public vécu complètement en intercorporéité, vécu complètement sur le mode intersensible. Est-ce que l'anonymat, comme nous le disaient certains au début du XXe siècle, n'est pas au fond une condition pour que les hommes puissent interagir, en fait, se respecter, avoir chacun leur espace, être un passant à la fois passif et considérable, mais qui ne sera pas complètement regardé, pris entièrement pour ce qu'il est dans son corps difforme, etc. On se comprend, sexué, etc. Et pour moi, là, il y a une question jusqu'où il faut avoir cet aspect intercorporel et juste, enfin, il faut. On peut le penser, l'imaginer, en tout cas dans notre Occident. Et jusqu'où on pense alors l'anonymat lui-même et l'enfermement en fait dans une individualité protectrice. Et entre les deux, où est la limite?
Il y avait cette idée, on revient à la question de la bulle, mais de travail de Colette Pétonnet, enfin son programme en fait sur l'anonymat comme bulle protectrice. Qui réactive tout un imaginaire en fait de l'anonymat, la liberté, la possibilité de se délester en fait de ses caractéristiques moins individuelles que collectives, donc des impositions collectives. Donc ça c'est un pôle. En fait, l'autre pôle, c'est si on passe du passant considérable au passante considérable, par exemple, on voit bien qu'on est obligé, on est renvoyé à un régime du corps. Qui produit de la différence et pose des questions. Voilà. Moi, je pense qu'on peut pas résoudre, mais on est toujours dans cette.
On y est très vite avec le handicap, c'est pour ça.
Absolument.
Pour ça que j'ai parlé uniforme.
Tout à fait. Avec le. Et moi, c'est vrai que j'ai peu travaillé sur le handicap en tant que tel, mais je l'avais constamment en tête. D'ailleurs, je pense que Rachel aura beaucoup plus de choses à dire là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, j'ai écrit un article dans Urbanisme sur les passantes considérables parce que ça remet en question toute une idéologie de l'espace public. Même penser dans la différence, dans l'action dramatique.
C'est juste par rapport à la question aussi de la production de l'anonymat, c'est que la production de l'anonymat, la production d'une attention polie, etc. C'est avant tout des procédés d'évitement de l'autre.
Oui.
Et à partir de là, il y a intercorporalité parce que pour l'éviter, il faut déjà le voir, au moins le repérer de manière au moins grossière, repérer son allure, la vitesse à laquelle il va marcher pour réussir à l'éviter, pour réussir à passer. Je crois que c'est minimal, mais il y a quand même forcément prise en compte de l'autre et sensoriel.
Ou dans des cas limites comme celui que vous citiez tout à l'heure, où l'absence, l'invisibilité des enfants des rues quand on ne veut pas les voir, qui sont juste là et que les regards portent ailleurs, et qui sont obligés de se rappeler.
Comme les mendiants,
violemment.
À genoux dans la rue. Hein.